Radio Okapi. Le journal présenté par Babel Pongo Massimango.
Bonjour, risque de balkanisation de la RDC. La MONUSCO n'y croit pas. Elle estime que si cela n'a pas pu se faire lorsque les pays, les parties entières du pays échappaient à l'autorité de l'État, ce n'est pas aujourd'hui que cela aura lieu. C'est la réaction de la chef de la mission onusienne que vous suivrez dans ce journal. 16 janvier 2001, 16 janvier 2020, cela fait exactement 19 ans que mourait Laurent Désiré Kabila. Celui qui était alors chef de l'État de la RDC a été assassiné dans sa résidence au palais de Marwessi à Kinshasa. Nous reviendrons sur le film de cet événement. Nous ferons également le point de la lutte contre Ebola avec le docteur Steve Aouka, le coordonnateur général de la riposte contre cette maladie dans le Deux Kivu et en Ituri, est notre invité ce matin. Ouvrons ce journal par cette réaction de la mission onusienne au sujet d'une probable balkanisation de la RDC. À ceux qui pensent à un quelconque risque de balkanisation de ce grand pays au cœur de l'Afrique, la MONUSCO n'y croit pas, a dit la chef de la mission onusienne au Congo. Les Lazurugi ont mis en exergue tous les progrès réalisés par les FARDC dans l'est du pays avec l'appui de la MONUSCO pour la stabilisation et la sécurisation du territoire national. Elle s'est exprimée ainsi hier au cours d'une conférence des Nations, de la conférence des Nations Unies à Kinshasa. Les Lazurugi dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
Et on parle de balkanisation. Comment on peut balkaniser le Congo si on n'a pas pu balkaniser le Congo à un moment où il y avait des pans entiers du pays où il n'y avait même pas d'autorité de l'État? Comment on peut balkaniser le Congo contre les Congolais qui sont rattachés à leur pays de façon très très forte? Je me rappelle quand j'étais arrivée chez vous en 2008, j'allais dans des villages où dans Massissi, dans Walikale, où il n'y a aucun accès, les femmes, les hommes qui vivent là-bas ne connaissent du Congo que leur village. Et ils étaient très attachés à leur pays, très revendiquant cette appartenance à ce pays dans ses frontières telles que héritées de la colonisation. Vos militaires sont en train de mourir par dizaines pour défendre votre territoire. Nous sommes avec eux, nous travaillons ensemble pour maintenir, justement, de tenir ces zones pour, et ils sont arrivés jusqu'à Médina, à l'intérieur du cœur où les ADF sont. Je crois que s'il y a aujourd'hui une chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a personne, que ce soit dans la communauté internationale, que ce soit chez les voisins, qui a des visées territoriales sur le Congo. Le Congo, dans ses frontières héritées de la colonisation, personne ne les conteste. Est-ce que vous avez des Congolais qui veulent se séparer du Congo, créer un État ?
La patronne de la MONUSCO s'est opposée aussi à l'idée de l'érection d'un mur qui séparait la RDC de ses voisins. Cette idée, selon le journaliste auteur de la question, serait contenue dans une pétition qui circulerait actuellement dans la capitale. Nous voulons construire une Afrique sans frontières, avec une économie intégrée. Nous voulons construire une Afrique qui va d'Alger à Cape Town, a insisté Leila Zerougui. Deux mois après le lancement des offensives des FARDC contre les ADF dans la région de Beni, l'armée a conquis quelques bastions importants et neutralisé certains commandants de ce groupe armé. Ceux-ci sont accusés par les autorités d'étouffer des civils dans cette partie du Nord Kivu. Selon des sources sécuritaires, les FARDC s'emploient actuellement à rechercher et identifier le campement où se trouverait Moussa Seka Baloukou, actuel chef des ADF et certains de ses collaborateurs. Mais que sait-on au juste de Moussa Baloukou, actuel commandant de ce groupe armé? Élément de réponse avec vous au Martial Papimoukeba.
Très peu de choses sont connues sur Moussa Baloukou, né vers les années 70 dans le district de Kasese en Ouganda. Selon des sources sécuritaires, après avoir rejoint les ADF en état très jeune, Moussa Baloukou sera l'un des lieutenants fidèles de Djamil Mukulu, présenté comme le chef spirituel des ADF et aujourd'hui en détention en Ouganda. Il sera ensuite le juge en chef des ADF qui sanctionnait par la charia les combattants qui violaient les règles de ce groupe armé avant d'occuper le poste de commissaire politique chargé d'enseigner l'idéologie des ADF aux nouvelles récrits. Depuis 2015, Moussa Baloukou est le commandant en chef des ADF après l'arrestation de Djamil Mukulu en Tanzanie. Moussa Baloukou, qui est sous sanction du Trésor américain, est présenté par les sources militaires comme commanditaire du recrutement des combattants, de la planification des attaques, des enlèvements et des tueries des civils par les ADF à Beni. Les sources sécuritaires disent qu'avec ses proches collaborateurs Mohamed Lumissa et Amis Kassada, il dirigerait les ADF à partir des campements rebelles jusqu'à la inconnue dans la région de Beni. Par contre, Amigo Kibirigé et Mohamed Kaira, deux autres chefs ADF, auraient été tués au cours des opérations des FRDC. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
La signature de l'accord de paix entre le groupe armé Force de Résistance Patriotique de l'Ituri FRPI et le gouvernement de la RDC est prévue dans deux jours. Ce sera ce samedi 18 janvier à Guéti, chef-lieu de la chefferie de Walendubindi au sud d'Irumu. C'est le responsable du programme national de stabilisation et reconstruction des zones sorties de conflits armés, Starek en Ituri, qui l'a révélé hier au cours d'un point de presse à Bounia. Jean-Marc Mazio précise que certains membres du gouvernement central sont attendus pour cela demain à vendredi à Bounia. Et pour lui, la signature de cet accord permettra de mettre fin aux conflits aux armées au sud d'Irumu qui durent depuis environ deux décennies. Jean-Marc Mazio, au micro d'Isaac Mayopé.
Le projet de l'accord a été analysé par le Conseil des ministres et tous les contours de ces documents, ces drafts a été approuvé. Le Conseil des ministres avait chargé le Premier ministre pour sa mise en œuvre. Et demain déjà, il y aura une équipe d'avance qui va venir pour s'assurer de la préparation, pour préparer aussi l'arrivée de l'autorité qui va engager le gouvernement. Et la date a été déjà annoncée. Il y a eu des correspondances du plus haut niveau. D'ici le 18, il y aura la signature de l'accord entre le gouvernement de la République et la FRPI. À ce stade ici, on n'a pas de crête parce que il y a eu déjà des compromis par rapport au cahier des charges. Tout est organisé dans l'accord. Il est prévu des armements, des mobilisations, beaucoup de choses. Et voilà, l'engagement et la disponibilité du gouvernement de la République, du président de la République, de pouvoir résoudre d'une manière définitive cette tragédie de la FRPI.
C'est au cours du Conseil des ministres du 10 janvier dernier à Kinshasa que le gouvernement central avait approuvé ce projet d'accord entre les deux parties. 16 janvier 2001, 16 janvier 2020, cela fait exactement 19 ans que mourait Laurent Désiré Kabila, ancien président de la RDC. Il a été assassiné dans sa résidence au palais de marbre ici à Kinshasa. Paul Matendo revient ici sur le film de cet assassinat.
Mardi 16 janvier 2001, vers 13h30, selon des sources officielles, Laurent Désiré Kabila est abattu dans son bureau. L'assassin, l'un de ses gardes du corps, Rachidi Kasereka. Il sera lui-même tué quelques minutes plus tard par l'aide du camp du président, le colonel Edith Kapend, précise les mêmes sources. Les principales complices qui attendaient le meurtrier dans une voiture à l'extérieur du palais présidentiel réussit à prendre la fuite. Dans un entretien au correspondant de l'hebdomadaire britannique The Independent à Kinshasa, le conseiller économique de Laurent Désiré Kabila, Émile Mou confirme qu'un jeune garde du corps du chef de l'État a tiré plusieurs balles à bout portant avant d'être abattu par les forces de sécurité présidentielles. Léonard Machakoumamba est le ministre de la Santé au moment des faits. Il s'est trouvé au palais présidentiel lorsque Kabila est abattu. C'est lui qui a tenté de lui sauver la vie selon son témoignage à Radio Okapi le 16 janvier 2016. Le président de la République a été approché par un garde qu'il a abattu en plein travail, raconte-t-il. Au moment où nous terminions une séance de travail, il m'a demandé d'attendre dans l'autre bureau. Et cependant qu'on attendait que nous avons entendu trois coups de feu et nous nous sommes précipités pour porter secours, relate Léonard Machako avec une pointe de regret. Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir le 17 mai 1997, alors porte-parole de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL.
25 morts enregistrés à la prison centrale de Makala, ici à Kinshasa, en presque deux semaines, soit du 1er au 13 de ce mois de janvier, suite au manque de nourriture et de soins de santé. L'alerte est donnée par la Fondation Bill Clinton pour la paix. Dans un communiqué qu'elle vient de publier, cette ONG dénonce des morts en silence dont le gouvernement et les magistrats sont responsables. Selon la Fondation, sur 8400 détenus de Makala, 500 sont des condamnés et les autres des oubliés de la justice. Des détails sur cette alerte de la Fondation Bill Clinton avec vous, Jeff Ngoy.
Quid de la responsabilité des magistrats dont l'activité n'est pas suivie par le Conseil supérieur de la magistrature, selon Emmanuel Adoukole de la Fondation Bill Clinton?
Lorsqu'un juge prononce le jugement, il lave la main, c'est le procureur qui arrête, qui libère. Donc s'il y a aujourd'hui ce proprement de prison, ce sont les procureurs généraux qui à la base. En principe, c'est le Conseil supérieur de magistrature qui devait faire ce travail, mais comme le gros poisson est pris, qu'est-ce que ça deviendra le petit poisson?
D'après les pénitenciers, les 40% des fonds annoncés par le ministère des Finances pour l'approvisionnement de la prison ne pourront servir qu'à payer les arriérés de 3 mois auprès des fournisseurs. Emmanuel Adou demande des poursuites.
Nous demandons les poursuites contre le ministre des Finances. Le président de la République, il doit prendre une mesure très sévère contre le ministre des Finances pour le sabotage qui a causé plusieurs morts.
Au Conseil supérieur de la magistrature, on allègue que personne ne peut être détenu en prison sans dossier et que le travail des magistrats est bien contrôlé. Quant au ministre des Finances et de la Justice, ils sont restés injoignables.
Les médecins de la RDC réunis au sein du CIMECO, syndicat de médecins du Congo, accordent un préavis de grève de 6 jours ouvrables à dater d'hier mercredi. Lors d'un point de presse hier à Kinshasa, le CIMECO a affirmé que les démarches menées auprès du ministère de la Santé, de la fonction publique, du budget et des finances en vue des solutions à leurs problèmes socioprofessionnels sont restées infructueuses. Ces médecins regrettent que non seulement les gouvernements n'engagent aucune discussion avec eux jusqu'à présent, mais aussi aucune audience ne leur est accordée à tous les ministères concernés. Au nombre de leurs revendications figure entre autres la paix de tous les médecins non payés au cours de l'exercice budgétaire 2020, la promotion au grade et la paix de chaque médecin à son grade statutaire. Docteur Juvenal Mwanda, secrétaire exécutif du CIMECO, s'exprime au micro de Billy Van Lutumba.
Depuis que le cahier des charges a été déposé, il n'y a pas eu de suite, raison pour laquelle les médecins ont tenu des assemblées générales et des conseils provinciaux à l'issue desquels il a été demandé au bureau exécutif national de déposer un préavis de grève de 6 jours ouvrables à dater de ce jour. Et expire le 25 janvier 2020. À défaut des négociations, comme vous pouvez bien le deviner, les médecins seront appelés à faire la grève, mais aussi à imputer au gouvernement de la République la responsabilité de toutes les conséquences fâcheuses éventuelles de cette grève.
Docteur, les médecins congolais ne font des grèves que quand il s'agit de leur salaire, mais pas pour les conditions de travail, le manque de médicaments, l'insalubrité dans les hôpitaux.
En réalité, notre cahier des charges comporte 5 points, dont les conditions de travail et justement les conditions environnementales du travail du médecin. Les conditions de travail, c'est à la fois le plateau technique, c'est à la fois les médicaments, c'est à la fois aussi les infrastructures.
Actualité internationale.
La Russie va avoir un nouveau chef du gouvernement. Mikhaïl Mishoustine, qui était jusque-là chef du service fédéral des impôts, va remplacer Dmitri Medvedev. Ce dernier quitte son poste après 8 ans passés à la tête de l'exécutif. Il a présenté sa démission quelques heures seulement avant l'annonce de cette nomination par le président russe. Une nomination qui doit encore obtenir l'aval de la Douma, la chambre basse du Parlement acquise à Poutine, ce qui ne devrait être d'ailleurs qu'une formalité. Et puis la police italienne a démantelé hier en Sicile un réseau mafieux spécialisé dans la fraude aux subventions agricoles européennes. Près de 100 personnes ont été arrêtées, dont des chefs mafieux, des employés de l'État ainsi que des notables locaux.
L'invité.
Il s'agit du coordonnateur général de la riposte contre Ebola dans les deux Kivu ainsi qu'en Ituri. Dr Steve Aouka s'exprime sur l'évolution de la situation épidémiologique dans les zones de santé touchées par Ebola. Ils sont traités avec Martial Papi Chomukeba.
Dr Steve Aouka, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, comment se présente la situation épidémiologique dans les zones de santé touchées par Ebola?
Depuis le début de l'épidémie, 29 zones de santé ont été infectées. Et aujourd'hui, sur les 29 zones de santé, seulement 6 sont des cas actifs, soit les cas dans les derniers 21 jours. Et il s'agit des zones de santé de Kalorusa, Bukavu, Kaswa, Mabalako et Mambasa. La plupart de ces cas sont tous à Luya, dans Mabalako ou de Luemba en Ituri. Et la plupart d'entre eux se sont contaminés dans les centres de santé ou en famille. Donc nous appelons donc les responsables des différents centres de santé dans les zones où nous avons la maladie à être beaucoup plus vigilants sur le respect des mesures d'hygiène et de contrôle de l'accès dans leurs hôpitaux.
La zone de santé de Beni vient d'être touchée par des nouveaux cas d'Ebola après presque 4 semaines sans des cas positifs notifiés. Il y a quelques jours, la ville de Butembo a également été touchée. Qu'est-ce qui justifie cette situation?
Pour aussi longtemps que nous allons avoir un foyer actif, c'est dans un contexte où les gens, les populations se déplacent énormément d'un centre à un autre, on peut l'exportation de la maladie d'un lieu à un autre s'explique. Et la plupart des cas que nous avons eu à Butembo et où actuellement à Beni venaient, comme je le disais tantôt, de l'aire de santé de Aloya Gamabala, où nous avions eu une flambée qui a commencé à être rapidement contrôlée. Malheureusement, quelques personnes se sont déplacées, qui sont arrivées dans ces grandes villes du nord du Cependant, par exemple pour les Lubutembo, aujourd'hui nous sommes au 8e jour sans cas, au Kalungu c'est au 13e jour sans cas et au 11e jour. Ça veut dire que les équipes sur terrain dans ces zones ont très rapidement réagi et ont pu contenir, grâce au concours de la population, à contenir ces réinfections. Et ce qui est également important, c'est que tous ces cas que vous allez voir sont des contacts qui sont connus, qui étaient suivis, qui étaient attendus pour certains de faire la maladie. Nous les avons extraits très rapidement dans moins de 3 jours. La majorité se porte bien, sauf quelques signes de malaise et ils vont être traités avec un bon pronostic.
Est-ce que les dernières attaques des équipes de la riposte par les hommes armés à Biakato ne sont pas l'une des causes de la persistance de l'épidémie?
Oui, en effet, l'insécurité, tout comme l'accessibilité dans certaines régions où l'épidémie s'existe, est un des facteurs importants qui impacte très négativement sur la conduite de nos activités. Par exemple, l'attaque de Biakato a un peu démobilisé nos équipes, mais comme vous savez, notre volonté de mettre à fin à cette épidémie n'a pas été impacté et nos activités s'adaptent à cette zone-là, dans cette zone. Donc, nous intégrons l'insécurité dans nos stratégies. Par exemple, actuellement, nous intervenons à Biakato et à Luemba en faisant des ponts aériens à partir de Beni ou de Bounia. Et on est maintenant au-delà de 30 jours sans cas dans les zones où nous avons connu cette attaque.
Aujourd'hui, quel est l'épicentre d'Ebola et pourquoi on n'arrive pas toujours jusque-là à mettre fin à l'épidémie?
Alors, l'épicentre, nous avons constaté le 21 dernier jour, reste à Luemba. Et les efforts combinés au même moment, nous pensons qu'on peut arriver à éteindre toutes ces chaînes de temps.
Quel est votre message à la population des zones encore touchées par Ebola?
Les efforts de la population ont permis jusque-là, même s'il y a des flambées, mais ce ne sont pas des flambées exagérées comme nous l'avons vu au mois de juillet de l'année passée. Ces flambées restent autour d'un ou deux cas et souvent des cas connus que nous vivons. Et ça, c'est grâce à la population qui a compris et parfois nous alerte sur leurs propres familiers qui présentent des symptômes. Ça, c'est très important et pour cela, nous remercions vraiment la communauté et aussi les autorités administratives et politiques qui nous appuient dans la mise en place de nos stratégies. Cependant, ces efforts doivent continuer et c'est ça mon message. Que ce soit en milieu urbain où nous avons eu beaucoup d'améliorations, mais aussi en milieu urbain où nous devons encore améliorer notre accessibilité auprès des communautés. Cette épidémie finira lorsque la communauté sera totalement engagée et pourra contribuer à nous alerter sur n'importe quelle information qui peut nous aider à mieux contrôler cette maladie.
Docteur Steve Aouka, merci.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi.